Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Masimango.
Il faut davantage impliquer les communautés et les acteurs locaux dans la riposte contre Ebola. Cela permettra à la population d'être bien informée en langue locale sur la maladie et cela évitera des actes vandalisme contre des équipes de riposte. C'est en tout cas ce que propose l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. Dans ce journal aussi, ces révélations de Global Witness, l'ONG met en lumière la contrebande autour du coltan de Rubaya en Nord Kivu. Elle en a suivi les traces au Rwanda jusqu'aux chaînes d'approvisionnement des grandes entreprises technologiques et automobiles du monde. Ces traces, vous en avez peut-être aussi dans votre téléphone, votre laptop ou votre voiture. À l'occasion de la journée mondiale contre le travail des enfants aujourd'hui 12 juin, nous abordons les défis et les actions menées pour l'élimination du travail des enfants avec notre invité, Godé Joseph Kayembe, président du conseil d'administration de la LISADEL. Madame, Monsieur, bonjour. Lutte contre Ebola, l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI, plaide pour l'implication des communautés et des acteurs locaux dans les activités de riposte contre Ebola. Cet appel, c'est pour combattre les fausses rumeurs et la désinformation autour de cette maladie et limiter ainsi la propagation du virus dans la société. Dans une déclaration hier jeudi à Bunia, cette structure dénonce la méfiance de certains habitants face à cette maladie, méfiance que l'UNADI attribue à l'ignorance et pour elle, c'est cette ignorance qui est justement à la base des actes de vandalisme enregistrés ces derniers jours contre des équipes de riposte. D'autres précisions sur cette communication de l'UNADI avec vous, Martial Kizabiamungu.
L'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI, dans sa déclaration, dit avoir constaté avec regret la non-implication des communautés et des acteurs locaux dans les activités de riposte sur le terrain, ce qui, selon cette structure, favorise le manque d'intérêt de certaines couches sociales qui doutent encore de l'existence de l'épidémie d'Ebola, avec comme conséquence la propagation du virus dans les communautés. Son président, Michel Beta, demande aux autorités sanitaires d'assurer associer les leaders communautaires dans la sensibilisation de la population au danger de la maladie d'Ebola, si possible dans les langues locales. Michel Meta.
L'implication de la communauté et des acteurs locaux dans la sensibilisation, c'est un atout majeur pour vigiler cette maladie. Malheureusement, dans le cadre de la riposte, en tout cas, les communautés ne sont pas associées directement.
L'UNADI dit poursuivre avec ses propres moyens sa campagne de lutte contre les actes de vandalisme contre les équipes de riposte. Après rempart à lundi dernier, deux membres de cette structure vont se rendre à Mungalu, épicentre de cette 17e épidémie d'Ebola en RDC pour la même cause. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Pour sa part, Médecins sans frontières, MSF, a fait le point hier jeudi sur les activités entreprises dans les zones touchées par cette 17e épidémie d'Ebola. C'est à l'occasion d'un café de presse organisé à Kinshasa. Il faut savoir que MSF fait partie de l'équipe d'investigation dans la lutte contre Ebola à Mungwalu et dans ce cadre, il fait aujourd'hui face à plusieurs défis liés notamment à l'insécurité persistante dans la partie touchée par l'épidémie. MSF précise que la riposte se fait sous le leadership du ministère de la Santé à travers l'Institut national de santé publique avec l'accompagnement des partenaires internationaux dans l'OMS. Benjamin Moudoumbi, que retenir d'autre de cette communication de Médecins sans frontières?
Considérée comme l'épicentre de l'épidémie, la province de l'Ituri concentre la majorité des cas recensés à ces jours. Comment les personnes autrefois déclarées malades du virus Ebola parviennent-elles à être guéries? Albert Essung, chef de mission adjoint basé en Ituri, explique le fait.
Pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Par contre, les signes que les patients présentent peuvent être soignés. Le vomissement peut être soigné, la fièvre, la diarrhée peut être soignée. Quand le patient est vu beaucoup plus tôt, ça donne beaucoup plus de chances d'être guéri. Les gens doivent savoir qu'on peut être guéri de la maladie Ebola, surtout quand on est vu beaucoup plus tôt. Ça permet rapidement que ces signes-là, on puisse les soigner et permettre à ce que le patient retrouve sa santé.
Qu'est-ce qu'il faut retenir dans la riposte du virus Ebola en Ituri, au nord et au sud Kivu? Docteur Jean-Gilbert Ndong, coordinateur médical intersection du bureau du représentant MSF, répond.
La situation sur le terrain reste assez préoccupante et que Médecins sans frontières contribue activement
rapidement à la prise en charge des cas. Avec des centres de traitement Ebola à Mont-Voilou, à Bénin, Goma, à Bukavu, à Luero.
Pour rappel, l'épidémie à virus Ebola de la souche Bundibugyo a été officiellement déclarée le 17 mai dernier, alors que le premier cas a été identifié le 24 avril 2026.
Et sur terrain Nord Kivu, des équipes du programme alimentaire mondial PAM préparent et distribuent des repas chauds et nutritifs aux malades internés à l'hôpital général de référence de la ville de Beni. C'est pour soutenir la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui touche la province, avec déjà plus de 600 cas suspects et de décès enregistrés. Sont aussi concernés par cette initiative des personnes placées en quarantaine, ainsi que le personnel soignant. Une ration sèche est également remise aux familles ayant un patient en soins ou en isolement. Marc Marofimbo pour plus de détails.
Ce mercredi 10 juin, à l'hôpital général de référence de Beni, plus de 30 familles ont bénéficié des rations pour une durée d'un mois. Celles-ci sont composées de farine de maïs, de riz, des haricots, d'huile végétale et de sel de table. Ces rations sèches sont remises directement aux familles dont les membres sont à traitement ou en isolement. Elles contribuent à maintenir une certaine stabilité au sein du foyer en limitant le déplacement, expliquent les autorités sanitaires. Écoute que ma fille a sa tante maternelle en quarantaine depuis 10 jours. Elle témoigne. Cette ration qui nous est offerte aujourd'hui par les PAM va vraiment nous aider alors que nous serons de retour à la maison. Nous ne pourrons plus acheter de la farine puisque nous en a donné ni des haricots. Le peu d'argent que nous avons pourra désormais servir pour couvrir d'autres besoins ménagers. En plus de l'appui nutritionnel apporté aux patients, au personnel soignant et aux familles des malades ou des cas suspects, le programme alimentaire mondial PAM apporte également un soutien logistique. Il transporte notamment des équipements médicaux, des équipes de santé et des acteurs humanitaires vers les zones touchées par l'épidémie d'Ebola. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Dans cette édition aussi, ces révélations sur le pillage et finalement la fraude autour des minerais de l'Est du pays. Des milliers de tonnes de coltan issues de la contrebande extraite du site minier de Roubaix en Nord Kivu alimenteraient des chaînes d'approvisionnement de grandes entreprises technologiques et automobiles du monde. C'est ce qu'affirme l'ONG Global Witness dans un rapport publié mercredi. Après un an d'enquête, l'organisation indique avoir retracé les circuits de ce minerai provenant d'une zone sous occupation de la coalition rebelle FC-123 dans l'Est de la RDC. Jude Mister Bulanda nous en dit plus sur cette contrebande.
Une fois introduit clandestinement au Rwanda, la traçabilité des minerais des coltans issus des mines des Roubaix devient incertaine et les acheteurs finaux restent inconnus, dit Global Witness. Selon ces rapports, au moins 5 des 7 principaux exportateurs rwandais se seraient approvisionnés en coltan des conflits avant de les vendre à des fonderies, notamment en Chine et au Kazakhstan. Les minerais y est transformé par la suite en tantale, composant clé des appareils électroniques. Global Witness cite plusieurs multinationales dont Sony, Microsoft, Amazon, LG, Nvidia, Ericsson, Toyota et Vodafone susceptibles d'être indirectement liés à cette chaîne d'approvisionnement malgré les dispositifs et des contrôles existants. L'ONG pointe également les systèmes de traçabilité ITSCI accusés d'avoir permis l'intégration des coltans des contrebandes dans les circuits légaux en lui attribuant une origine rwandaise. Des experts de l'ONU avaient déjà estimé à plus de 120 tonnes par mois les volumes de coltan transférés illégalement vers les Rwandais en 2024. Sur un an, au moins 1400 tonnes auraient ainsi franchi la frontière. Dans le même temps, les exportations rwandaises ont été multipliées par 2,5 depuis 2021, précise Global Witness.
L'ambassadrice française pour les droits de l'homme est en séjour en RDC depuis quelques jours. Au sortir d'une audience cette semaine avec le ministre des Droits humains à Kinshasa, elle a affirmé la volonté de son pays d'accompagner le gouvernement souminois dans le plaidoyer pour la reconnaissance des génocides commis dans l'Est de la République démocratique du Congo. La diplomate française a dit prendre au sérieux les éléments qui lui ont été présentés par le ministre Samuel Mbemba. Elle demande aux populations congolaises de compter sur le soutien de la France. On écoute Isabelle Rome au micro de Blaise Ndongo.
J'ai voulu venir sur place pour rencontrer les différents acteurs, les officiels, les survivantes de violences sexuelles. Avec Monsieur le ministre des Droits humains, nous avons pu justement échanger de manière constructive sur ce sujet. Il m'a rappelé avec beaucoup de sincérité ce qui se passe à l'est du pays et toutes ces exactions dont peuvent être victimes ces femmes et ces atrocités. Et donc je pense que la France continue continuera à soutenir la RDC pour lutter contre l'impunité. Ça, c'est un axe très important. Je pense que la dignité de l'être humain ne peut pas exister si l'impunité subsiste. Bien sûr aussi, tout le soutien que la France peut apporter pour les victimes. Et c'est dans ce sens-là, notamment, que notre ambassade travaille sur l'accès des victimes à la justice. Le ministre a aussi évoqué la question de la reconnaissance du génocide. Je peux assurer que j'ai pris avec sérieux tous les éléments qu'il m'a communiqués.
Notez que le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, lutte pour la reconnaissance des génocides commis en RDC. Au mois d'octobre 2025, il a obtenu cette reconnaissance de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Autre nouvelle, dans le territoire de Mambasa en Ituri, le calvaire de la population s'accentue chaque jour depuis l'effondrement du pont Ituri 2 reliant les chefferies de Babila, Bakwanza et Babobi. Selon Jospin Apaluko, responsable de la nouvelle société civile locale qui s'est rendue sur place jeudi, les habitants de ces deux entités confrontés aux attaques de rebelles des ADF ne savent plus évacuer leurs produits champêtres vers les zones de consommation. Jospin Apaluko explique que les gens au téléphone par Martial Kisabiamongo.
Ce que nous demandons aux autorités, c'est de créer une diversion comme celle construite par les Chinois dans les passés. Des volontaires sont là pour ce travail, pour permettre aux petits véhicules et motos de passer, ainsi que les piétons. Il y a beaucoup de conséquences. Les marchandises ne passent pas et bientôt, il y aura hausse des prix sur les marchés et ça va créer une autre souffrance à la population, en plus de l'insécurité. Et puis, autre conséquence, comme il n'y a pas de passage, s'il y a une attaque des ADF, comment nos militaires qui sont à Mambasa Centre vont intervenir pour arriver au pont?
La prochaine conférence des gouverneurs des provinces est prévue en décembre dans la ville portuaire de Matadi. En prélude à cet événement, un vaste programme de modernisation de la voirie urbaine est lancé. Objectif, désengorger la route nationale numéro 1 et fluidifier la circulation dans la capitale du Congo central. Mercredi, le directeur provincial de l'Agence congolaise de grands travaux, ACGT, a présenté au gouverneur Grace Kwanga Bilolo le rapport des axes prioritaires retenus pour ces travaux. Babi Kundu explique ce qu'il en est au micro de Lise Kavira.
Nous avons déterminé 4 axes routiers en prélude de cette visite. Il s'est fait que le gouverneur avait demandé, par rapport à certaines urgences, de revoir ces packages de routes qui devaient être réhabilités. Et donc, sur au moins 6,5 km de la voirie de Matadi, les axes qui ont été retenus, c'est d'abord les pourtours de l'hôtel du gouvernement ici. Il y a aussi la boucle de Bungenda, la route qui envoie monter vers les stades. Il y a aussi l'avenue Lelombulu, mais aussi, finalement, la route d'accès à l'aéroport de Tchipi. Ces travaux doivent être faits avant le début de la conférence des gouverneurs.
Nous sommes au Maniema. La note de plaidoyer sur les inondations fluviales dans la ville de Kindu a été adoptée à l'unanimité par toutes les parties prenantes, dont les autorités politico-administratives. C'était lors d'un atelier de 2 jours qui s'est clôturé mardi à Kindu. Ces travaux visaient aussi à mobiliser la volonté politique et les ressources institutionnelles pour sécuriser la population vulnérable exposée aux inondations fluviales à Kindu. Florence Kizalunga.
Validée avec amendement, cette note de plaidoyer contient plusieurs recommandations. Bilembo Malonga est le chargé de réduction des risques des catastrophes au sein de l'organisation Union pour la promotion, la défense, les droits humains et environnement.
Il y a les recommandations comme, par exemple, il faudrait d'abord commencer par actualiser la base des données de tous les ménages vivant dans les zones inondables. Après, il faudrait ouvrir les lotissements dans les 3 communes pour permettre à reloger ces ménages qui sont dans les zones inondables. Et aussi leur accorder les titres de propriété. Ils ont aussi recommandé l'appui des services techniques. Il y a par exemple la RVF, Metelsat, ce sont là les services qui jouent sur les alertes précoces.
Le gouvernement provincial s'engage à soutenir cette note de plaidoyer. Kati Samba Makubuli, vice-gouverneur du Maniema.
En tant que gouvernement responsable, nous allons d'abord faire les suivis afin que cette note-là soit vraiment exécutée sans faille. Nous sommes dans l'obligation de chercher un endroit où un nouvel lotissement afin que cette population puisse vivre aisément dans leur milieu. Nous allons aussi éradiquer nos services-là. Ils sont en train d'octroyer des titres dans des endroits marécagés.
Un acte d'engagement a été signé par les participants à la fin des travaux. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Un premier groupe de plus de 260 Nigériens rapatriés d'Afrique du Sud à la suite de l'escalade des attaques anti-immigrés a atterri à Lagos hier jeudi. Le Ghana, le Mozambique et le Malawi ont déjà rapatrié des centaines de leurs ressortissants ces dernières semaines. D'autres candidats au rapatriement attendent encore leur tour. Quatre candidats sont en lice pour succéder à Antonio Guterres, la tête des Nations Unies. Il s'agit de la Chilienne Michelle Bachelet, l'Argentin Rafael Grossi et la Costaricaine Rebecca Crispan, ainsi que le Sénégalais et Macky Sall. Ils ont chacun été soumis à un interrogatoire serré de la part de 193 États membres et des ONG pendant 3 heures mardi et mercredi. Antonio Guterres quittera ses fonctions le 31 décembre de cette année.
L'invité.
À l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants célébrée aujourd'hui, la question de la protection des droits des enfants reste plus que jamais d'actualité. Malgré les efforts engagés, de nombreux enfants continuent d'être exposés à différentes formes d'exploitation à travers le monde. Pour mieux comprendre les défis à relever et les actions menées en faveur de l'élimination du travail des enfants, nous recevons comme invité Godé Joseph Kayembe. Il est président du conseil d'administration de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, l'ISADEL. Il répond aussi aux questions de Magloire Landou Maimba.
Monsieur Godé Joseph Kayembe, bonjour. Quel est l'état actuel du travail des enfants en République démocratique du Congo selon les observations de la LISADEL?
D'abord, on doit définir une catégorie de travail. Il y a le travail qu'on appelle la pure forme d'exploitation des enfants, le travail qui ne répond pas à leur âge, notamment être recruté dans l'armée ou faire le travail qui ne répond pas à l'âge de l'enfant. Et au Congo, il y a la loi de protection de l'enfant qui interdit l'utilisation des enfants dans les forces armées. Et au moins du côté de l'État congolais, il y a une observation par rapport à cette disposition-là. Dans l'Est, où il y a les rebelles qui n'ont aucun engagement avec, ni avec la loi, ni avec la communauté internationale, où on engage les enfants dans l'armée. Et c'est le travail, c'est le la pire forme de travail d'enfants interdit par la communauté internationale. Il y a le travail que font les enfants pour souvenir aux besoins des parents. En principe, la place de l'enfant est à l'école. Mais compte tenu des difficultés que traversent les parents, la plupart d'enfants, de parents, au lieu d'envoyer les enfants à l'école, ils les envoient pour vendre, par exemple, pour des vignes de commerçants en bilan, en se promenant surtout avec de l'eau sur la tête, ou soit en vendant des arrêts et autre chose, et qui ne permettent pas d'évoluer normalement, parce que l'enfant, pour qu'il évolue, soit à la maison, soit à l'école. Et c'est la situation que nous déplorons. Et soit il y a aussi l'exploitation des enfants, c'est interdit, l'exploitation sexuelle des enfants. Et ça, c'est courant. Aujourd'hui, les enfants sont exploités sexuellement, il n'y a aucune protection. Au Congo, actuellement, il y a beaucoup d'abus fait contre les enfants. Et c'est effectivement, c'est ce qui est interdit par la loi congolaise, y compris la loi portant protection de l'enfant. Donc la situation des travailleurs de l'enfant est explosive.
Et quelle action concrète la LISADEL mène-t-elle pour lutter contre le travail des enfants et protéger leurs droits?
La LISADEL, c'est une organisation des droits de l'homme spécialisée dans la protection et la promotion des droits de l'enfant. La LISADEL, elle a fait le plaidoyer pour qu'il y ait la loi sur la protection de l'enfant. C'est son travail, faire le plaidoyer auprès de l'État et ceux qui sont censés pouvoir appliquer la loi. Donc nous faisons le plaidoyer au niveau des autorités de la police, au niveau des juridictions, pour que ceux qui abusent des enfants soient sanctionnés. Nous avons l'équilibre juridique où il y a des avocats, où il y a des psychologues, où il y a des juristes pour aider les enfants qui sont victimes de violences ou qui sont exploités. Parce que l'exploitation des enfants fait partie du travail des enfants. L'enfant, le matin, doit être à l'école, ne doit pas être sur la rue. Il appartient à la police de pouvoir les interpeller. Et si l'enfant est victime ou les parents savent qu'il y a tel enfant qui est victime, ils peuvent s'adresser à nos télévisions. La télévision peut arriver à mettre le dossier aux avocats qui peuvent accompagner l'enfant et on arrive au résultat.
Et à l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants qui est célébrée le 12 juin, quel message adressez-vous aux décideurs et à la population congolaise?
Notre souci, c'est de voir tous les parents, tous citoyens congolais impliqués dans la protection des enfants. À travers le monde, la police est limitée, les services de sécurité sont limités, c'est toute la population qui est censée protéger les enfants. Il faut que toute la population congolaise, les parents, même le voisin qui trouve que l'enfant est victime de violence, qu'il ne puisse pas passer parce qu'ils disent que ce ne sont pas nos enfants. Les enfants sont naïfs, ils sont exploités à cause de leur naïveté. Il appartient à chaque Congolais de se porter garant de la protection des enfants. On a des chefs quartiers qui doivent être informés. On a des chefs d'avenue qui doivent être informés de la situation des enfants qui est en détresse. mais il faut que la population s'implique. Le message aussi s'adressait à la police qui doit jouer son rôle. La police congolaise ne joue pas son rôle correctement. La police est là que pour chercher des infractions qui ne peuvent pas booster le développement de ce pays ou l'avancement de notre pays. Il faut aussi que la police puisse jouer son rôle. Lorsqu'il trouve un enfant en détresse, il ne doit pas attendre qu'il soit saisi sur une infraction. Il faut arrêter les concernés. Donc il faut que tous ces gens-là s'impliquent dans la protection de l'enfant. C'est notre souci.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Ngondé Joseph Kayembe, président du conseil d'administration de la LISADEL. Fin de ce journal, Jude Milster Bilanda, la supervisée à la mise en onde, Jean-Claude Onciala. Merci à vous qui nous avez suivis. Excellente journée.